What's up la gang? Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode du show à Félix. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne journée. Je me demande où est-ce que vous m'écoutez, peut-être dans votre auto, peut-être en train de faire votre ménage, peut-être, je sais pas, peu importe où est-ce que vous m'écoutez, ça me fait énormément plaisir de faire partie de votre journée. Donc, un nouvel épisode, tabarouette, je m'enfarge dans mes mots. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais comme aujourd'hui, j'ai pas parler à grand monde dans ma journée. Tu sais, j'avais une journée à la maison, de travailler à la maison. Donc, tu sais, genre, tous les trucs moins hot, là, genre, de la paperasse, de l'ordinateur. Puis on dirait que mes babines sont comme pas échauffées. Fait que là, tu sais, tantôt, même j'ai fait un story là, sur Instagram pour dire, vu que je faisais un Q&A en parallèle là, sur Instagram aujourd'hui. Puis c'est tellement drôle parce que, genre, je trouvais que j'avais tellement l'air bête. J'étais comme « Bonjour tout le monde ». T'as pas parlé à personne pour dire que tes muscles du rire n'ont pas été assez échauffés. Vous allez peut-être me rire. Oui, et boy, ça va être beau aujourd'hui le podcast. Vous allez peut-être rire. Mais moi, une des choses que je fais souvent quand je travaille, exemple, avec du public, que je rencontre, exemple, des clients, j'ai des meetings, je donne des conférences, peu importe. Le matin, j'essaie de parler dans mon auto, j'essaie de parler le plus possible pour arriver, puis au moins avoir comme les muscles déjà comme réchauffés de la face pour bien parler. Fait que si vous avez tendance à travailler avec du public, je vous conseille de faire des vocalises, chanter, jaser avant de parler à la première personne au bureau, parce que sinon, ça se peut que vous y soyez un peu gommé. Donc aujourd'hui, je fais un Q&A sur le podcast. J'aime ça. En fait, j'adore ça, faire ça. Puis la raison est simple, c'est que souvent sur Instagram, j'ai seulement comme 15 secondes pour répondre à une question ou est-ce que je prends à parler pendant comme 5 minutes. Puis c'est un peu ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. J'ai pas lu les questions encore. On va regarder tout ça ensemble. On va voir de quoi ça a l'air, mais on va passer à travers. Puis si j'ai besoin de développer, je vais pouvoir développer. Sinon, non. Et n'oubliez pas, c'est un drop de knowledge. Donc, si vous voulez me payer, ben, repartagez mon podcast dans vos stories. C'est la façon de me dire merci, de faire ça pour vous. Ou ben, carrément, venez faire affaire avec FD Fitness aussi. Vous faites les deux. T'sais. Donc, on y va. Première question. Chute de libido en milieu fin de sèche, est-ce normal? Bon, la sèche, c'est un terme français de France, souvent européen, pour dire en termes de déficit calorique de cote. C'est normal que la libido baisse à un certain moment parce que quand quelqu'un est naturel, donc ne prend pas de performance enhancing drugs, donc d'anabolisant, quand le body fat est trop bas, la testostérone aussi diminue. Fait que c'est normal, tu sais, mettons que tu prends un gars naturel qui fait des shows de culturiste naturel. 2-3 semaines avant de monter sur le stage, tu regardes ses taux de testostérone libre dans son sang, puis ça va avoir chuté comme un homme de genre 60 ans parce que tu as besoin d'avoir une forme de cholestérol, tu as besoin d'avoir suffisamment de calories pour supporter tes androgènes. Il faut comprendre qu'il y a deux choses ben anaboliques dans la vie, les hormones et la bouffe. Fait que si vous coupez l'un, ben inévitablement, ça va avoir un effet sur l'autre. Deuxième question. Je travaille fort physiquement et toujours très fin. Comment contrôler ma satiété? J'engraisse. Ça se peut que, ben, premièrement, c'est normal d'avoir très faim quand on travaille physiquement. Je veux dire, ta dépense énergétique à tous les jours est beaucoup plus élevée que le commun des mortels. Fait que c'est normal d'avoir plus faim. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que la faim, le phénomène de satiété, ça prend un certain nombre de minutes à arriver. C'est pour ça que moi, je suis un grand fervent des aliments qui sont riches en volume, donc qui sont gros en volume, mais qui sont pauvres en calories. De cette façon-là, ben, ça vous permet de manger un repas, exemple, de 600 calories, mais que ça vous prend au moins 25 minutes le manger. Parce que 600 calories de McDonald's, je peux vous dire que ça me prend 3 minutes pour me le rentrer dans le trou de face. Ce que je veux dire par là, c'est que le temps que vous allez manger, mastiquer, la digestion, ben tout ça, ça prend un certain temps pour inhiber la ghréline, pour que le corps fasse « Ok, je viens de consommer des calories, je peux inhiber mon phénomène de faim et de recommencer ma journée. » L'autre chose aussi, c'est de faire des bons choix. C'est sûr que si à chaque fois que tu as une fringale, tu manges des repas qui sont riches en calories, genre mettons des croissants, juste un exemple comme ça, croissant au beurre, c'est très gras, il y a un peu de sucre à l'intérieur, mais il n'y a presque pas de fibres. Donc, ça va se digérer relativement rapidement et il n'y a pas vraiment de protéines, donc le phénomène de satiété n'est pas présent. Donc, si vous voulez avoir un effet de satiété, deux choses. low-calorie dense food, donc des aliments qui sont riches en volume, faibles en calories. Bon, c'est sûr que dans le cas de la personne qui m'a posé la question, il travaille physiquement. Fait qu'il y a besoin quand même d'aller chercher des calories. Par contre, c'est d'augmenter les ratios de protéines. La protéine a un effet... Il va avoir un effet sur la satiété. Excusez-moi, j'ai reçu comme un message en même temps. Il va avoir un effet sur la satiété. Fait que ça va vous aider à toffer. T'sais, moi, actuellement, je suis en processus de perte de gras. Ça va vraiment bien. Mais là, ces temps-ci, mes cellules adipeuses s'en viennent pas mal vides. Fait que qu'est-ce que vous pensez qui se passe quand mes cellules adipeuses s'en viennent pas mal vides? Ben, ça devient plus difficile. Fait que qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que là, j'augmente les fibres dans mon alimentation et j'augmente aussi les protéines. Les protéines ont un effet aussi thermogénique, donc 4 kilocalories. Par gramme de protéines, il n'égale pas vraiment 4 calories à cause de l'effet thermogénique de la protéine, à cause de sa difficulté à être gérée. Ceci étant dit, ça a un effet de satiété qui est beaucoup plus grand. Fait que quand j'arrive à un certain stade où je commence à avoir plus faim, ben j'augmente mes ratios de protéines à ce moment-là. Ça m'aide, puis je diminue d'autres types de calories, exemple gras, qui ne me donnent pas le même phénomène de satiété. Ton opinion sur le jeûne intermittent? Contrôle de la faim, la glycémie. J'ai fait un podcast sur les trends alimentaires, puis je dégdante vraiment en détail avec le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est quoi? C'est que tu mets des fenêtres dans ta journée où est-ce que tu manges pas. Le plus classique, là, c'est 16-8. Fait que tu manges pendant 8 heures, puis tu manges pas pendant 16 heures. Fait que je te donne un exemple. Tu manges de midi à 8 heures le soir, tu manges pas après de 8 heures à midi le lendemain. L'avantage du jeûne, c'est le même avantage que n'importe quelle diète. Tu sais, les diètes, pourquoi ça marche, c'est que tu coupes un groupe alimentaire. Okay? Le jeûne, ben, tu réduis ta fenêtre où est-ce que tu peux, tu te donnes, entre guillemets, le droit de rentrer des calories. Fait qu'inévitablement, tu perds du poids parce que tu manges moins de calories. Okay? Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de bénéfices au jeûne qui sont associés au bénéfice de retrouver un poids santé. Fait qu'il ne faut pas mélanger, tu sais. Quand il y a des bénéfices qui sont associés à un trend ou associés à quelque chose qu'on fait, il faut comprendre, est-ce que c'est réellement associé à la pratique comme telle ou aux conséquences liées à cette pratique-là? Fait que, tu sais, le jeûne va t'amener à perdre du poids. Bon, il y a certains effets bénéfiques qui vont venir par la suite, mais c'est possiblement des effets de ta perte de poids, une meilleure glycémie, ta. Tu sais, toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus le fait que tu te rapproches possiblement d'un poids santé. Oui, il y a un effet au niveau de... Ce qui a rendu le jeûne bien populaire, c'est qu'il y a un effet au niveau de l'autophagie. Tout le monde disait ça. L'autophagie, c'est quoi l'autophagie? C'est comme, si vous voulez, c'est comme enlever des cellules mortes puis mettre des nouvelles cellules. OK, en pro science, c'est pas plus compliqué que ça, là, mais c'est ça. Mais le phénomène de l'autophagie a été prouvé que ça se fait aussi dans des cardio avec une bonne intensité. Fait que vous soyez un sportif, quelqu'un qui bouge, qui fait du sport à quand même, puis vous donnez à 100%, vous allez avoir certains bénéfices que le jeûne intermittent amène. Un autre bénéfice du jeûne intermittent, c'est que souvent les gens ont moins mal au ventre. Mais le problème, c'est que souvent les gens ont tendance à tout le temps être en train de manger. Le système digestif fonctionne 24 heures sur 24 et ont tendance à rentrer des aliments qui ne tolèrent mal ou qui gèrent mal. Donc le fait de rentrer en jeûne, ben, ça donne un break au système digestif. Donc souvent les bloatings, les gonflements s'en vont. Un autre phénomène aussi, c'est beaucoup de gens disent qu'ils ont plus d'énergie. Ils ont plus d'énergie causée par le fait qu'ils ne mangent pas, parce que ça stimule, exemple, cortisol et tout ça. Donc, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir plus d'énergie comme ça? Je sais pas. Ça reste à débattre. Fait, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense qu'il y a différentes façons de contrôler ta glycémie. Si tu es rendu à faire des jeûnes pour contrôler ta glycémie, tu es mieux de faire plus d'activité physique. Ça va avoir un meilleur effet sur ta glycémie. L'activité physique va stimuler... OK, imaginez que vos muscles, là, c'est des grosses éponges, puis à chaque fois, vous faites une contre... Là, écoute, pour vrai, là, j'espère que je ne vais pas me faire citer, parce que là, c'est vraiment... On dirait que j'explique ça à un enfant de 4 ans, genre Fisher-Price, mais imagine ton muscle. Quand tu fais une contraction musculaire, c'est une éponge, tu pèses sur l'éponge, il y a du jus de sucre qui sort, OK? Fait que là, tu as plus de place pour rentrer du nouveau sucre dedans, OK? Fait que si tu veux avoir une bonne glycémie, ben il faut que ton éponge, elle soit pas tout le temps pleine, OK? Fait qu'une façon de vider l'éponge, ben oui, c'est bien beau pas manger parce que tu vas combuster un peu de glucose qu'il y a dans tes muscles, t'es relativement actif. Mais c'est de faire de l'activité physique, de la course, de la marche, du vélo, de la muscu. C'est une façon, à mon sens, beaucoup plus saine qu'aller vers un jeûne intermittent pour le faire. La seule fois que je dirais que ça pourrait être pertinent d'utiliser le jeûne intermittent, Ben, il y a deux raisons, mais c'est dans des extrêmes. Peut-être un bodybuilder qui mange en 4000 calories par jour, tous les jours. Peut-être de faire un jeûne intermittent sur une ou deux journées dans tout ça va donner un break à son système digestif. Ça pourrait ne pas être... ça pourrait être quelque chose que je recommanderais. Encore là, ça reste du cas par cas. Puis la deuxième des choses aussi, c'est, mettons, quelqu'un qui va augmenter sa flexibilité métabolique. Un terme qui a été... galvaudé à gauche et à droite, flexibilité métabolique, flexibilité métabolique. Ce qui se passe, c'est qu'il faut que ton corps soit capable d'utiliser du gras et du sucre comme ressource énergétique, donc rentrer en la filière énergétique du glucose et celui d'oxydé des lipides. Et une bonne façon d'avoir cette flexibilité métabolique-là, c'est de un, être capable d'avoir de longues périodes sans manger. Ça peut être entre des repas, ça peut être une forme de jeûne et tout ça. Par contre, de l'autre côté, si vous faites de l'activité physique puis vous avez un pourcentage de gras qui est sain, vous allez par le fait même avoir une meilleure flexibilité métabolique parce que lorsque vous créez un déficit calorique, bien inévitablement, le corps doit aussi dégrader des triglycérides, les remettre dans le sang puis les oxyder sous forme d'énergie. Fait que le gras va être aussi combusté. Fait que tu sais, tout ça étant dit, est-ce que le jeûne intermittent a sa pertinence? Ben oui, chez quelqu'un qui n'est pas capable de laisser la fourchette sur sa table puis qui genre il mange de façon émotionnelle, tu sais, puis que tu n'as pas le choix d'y donner. Je dirais peut-être d'aller consulter un psychologue pour savoir pourquoi il a besoin du rush de dopamine que la bouffe y donne. Souvent, c'est n'importe quoi. Là. Quelqu'un qui mange énormément, là, qui a besoin de se faire des food coma, ben c'est une pathologie à même titre que boire de l'alcool en excès, que fumer du pot en excès, qu'être un infomane, qu'être joueur compulsif, tout ce qui est très dopaminergique, ben, il y a souvent un besoin sous-jacent à ça. Puis faut adresser le problème en arrière pour pouvoir en régler. T'sais, si tu ne trouves jamais la cause, ben, tu vas rester dans ce cycle-là un peu toute ta vie. T'sais. Fait que genre, je pense que c'est pas sain. Quelqu'un qui a tendance à tout le temps prendre du poids, puis qu'il va voir, exemple, un ou une spécialiste en alimentation, pour pas le nommer ou la nommer, puis que la personne, il dit, ben, fais juste prendre une grandeur plus grande de linge, puis accepte-toi comme t'es. Je comprends l'objectif bienveillant en arrière du commentaire du spécialiste en alimentation. Par contre, moi, j'adresserais la cause de pourquoi la personne est en surpoids, puis j'adresserais pourquoi que la personne fait des yo-yo par rapport à ça. C'est pas juste parce qu'elle aime manger, parce qu'elle est gourmande ou qu'elle est gourmand, OK? C'est souvent parce que la personne vit des choses, parce que la personne a des choses dans sa vie qui fait qu'il faut que la personne compulse, avoir un rush de dopamine à quelque part, et c'est dans l'alimentation, c'est que la relation avec l'alimentation n'est pas nécessairement la meilleure des relations de la planète Terre, tu sais, je veux dire... Je pense que beaucoup de gens dans le fitness se font taper sa tête parce qu'ils suivent des plans alimentaires, des affaires de même. Puis, je comprends les spécialistes qui parlent de ça, puis c'est correct. Puis, regarde, fair enough. Mais il faut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Faut pas faire du clivage. Faut pas dire si tu suis un plan alimentaire, tu es une mauvaise personne. Puis, le secret à tout ça, c'est de grandir ta garde-robe, puis accepter tes bourrelets comme qu'ils sont. Puis, je comprends l'objectif. Puis, je suis d'accord, à un moment donné, il faut s'aimer. Là. Je veux dire, le corps, tu sais, votre enveloppe corporelle définit pas la personne que vous êtes, loin de là. Puis, si votre valeur est attribuée à votre apparence, que ce soit vos bourrelets, votre face, la grosseur de vos lèvres, la grosseur de vos. De vos seins, la grosseur de vos fesses, puis les gars, votre ligne de cheveux. Je veux dire, à un moment donné, on est plus qu'une enveloppe corporelle, on est une âme, et boy, je suis spirituel, mais on est quelque chose qui est à l'intérieur, mais notre enveloppe corporelle, c'est notre véhicule. Le seul problème, c'est quand notre véhicule devient plus difficile à nous amener du point A au point B, parce qu'exemple, on traîne des kilos en trop, quoi que ce soit, ben là, c'est plus juste un aspect cosmétique, esthétique, il y a peut-être aussi un aspect fonctionnel. Puis c'est là qu'il faut peut-être qu'on se pose des questions. Fait que c'est beau grandir sa garde-robe, mais moi, j'adresserais « Pourquoi tu veux perdre du poids? » Ah, ben c'est parce que quand je joue avec mes enfants, je t'ai soufflé après 10 minutes. Ben même si tu vas voir un spécialiste en alimentation puis il dit « C'est pas grave, achète-toi des pompes puis fais-toi des pompes d'asthme. » Tu sais, là, je niaise, mais tu sais, à un moment donné, il faut savoir être capable d'adresser avec la science les choses. Puis je pense qu'il y a une raison en arrière des gens qui veulent perdre du poids, puis c'est pas... Puis les gens font pas des yo-yo avec leur poids juste parce que... ils veulent ressembler à, je sais pas, Kim Kardashian, là, je sais pas, je dis n'importe quoi, ou parce que, genre, ils veulent ressembler à leur voisine, ou parce qu'ils ont vu des fils ou des gars sur Instagram. Il y en a que c'est parce qu'ils ont une mauvaise relation avec la nourriture, ils ont une relation malsaine, puis ils mangent leurs émotions. Fait qu'il faut juste adresser le besoin, ce qui est sous-jacent à ça. Puis dire de s'accepter comme ça, mettre un plaster sur le bobo, c'est la même chose que dire à quelqu'un qui est alcoolique, « Ah, ben moi aussi, si je vivais ce que tu vis, ben je me torcherais la fin de semaine. Fait que garde, c'est une passe, comme fais juste boire de l'eau en même temps te saouler la gueule. » Tu sais, là, j'exagère, puis je suis violent dans mon intervention, mais ça cache souvent des problèmes qui sont hyper grands. Puis si tu veux aider la personne, ben aide-le à adresser la raison pour laquelle il y a ce trait de personnalité-là, au lieu juste de dire, ben j'en continue, puis je t'aime pareil, puis donne-moi 60$. Anyways. J'ai dévié un peu, mais on se comprend. Qu'est-ce qu'on doit manger pour perdre du poids? Ça semble simple en théorie, mais pas en pratique. C'est très, très simple en pratique, autant qu'en théorie. Puis encore là, il y a des nutritionnistes qui me diraient que je suis le diable en personne de dire ça, mais prends-toi une application pour compter tes calories. Puis pendant 2 semaines, là, comme fais juste rentrer dans l'application tout ce que tu te rentres dans la bouche. Puis après 2 semaines, t'as-tu pris du poids, t'as-tu perdu du poids, t'es-tu stable? Fais une moyenne des calories sur 2 semaines que t'as mangé, ça va donner une idée. Tu t'es maintenu, ben tu sais que si tu manges ce nombre de calories-là, ben tu te maintiens. T'as pris du poids, tu sais que tu manges trop par rapport à ton objectif. T'as perdu du poids, continue comme ça. T'as perdu vraiment trop de poids, genre plus de 1,5 à 2 livres par semaine, ben mange un peu plus parce que là, t'es en beaucoup trop gros déficit. C'est aussi simple que ça. Tu peux perdre du poids en mangeant des Big Mac. Tu peux perdre du poids en mangeant, je sais pas, des toasts au beurre de peanut toute la journée. Est-ce que ta santé va être optimale? Ben, probablement pas. Tu vas manquer de plein de micronutriments, mais tu vas perdre du poids parce que c'est une question de balance énergétique, OK? Est-ce que tu vas avoir une masse musculaire en même temps? Pff, ça reste à voir, OK? Mais c'est aussi simple que ça. Puis là, je vais être fin avec toi. Là, je vais donner un petit bonus. Priorise des aliments qui sont les moins transformés possibles. Tu sais, c'est un terme vraiment drôle à dire, mais dans le sens que souvent qu'il n'y a pas de sucre ou de gras qui est ajouté à l'aliment, de cette façon-là, ben, ça te permet de manger les réelles calories de l'aliment sans nécessairement tout le flafla qui vient avec. Quel est ton sport ou activité off-gym? Écoute, j'aimerais en avoir. Mais en ce moment, j'ai de la misère à juste catch-up ma vie. OK? Tu sais, même que je vais vous faire une confidence, là. Tu sais, l'autre jour, je parlais à mon chum Oli, puis début de la semaine, puis je disais, tu sais, Big, c'est fucké parce que, tu sais, Oli, dans le fond, c'est mon partner avec qui je travaille dans le business, puis on se fait des calls à tous les matins quand je m'en vais à job, on se fait comme l'espèce de meet-up de la journée. Puis je dis, aïe, ça me fait 2 jours que quand je prends la curve pour aller à mon bureau, genre j'ai une boule dans l'estomac, genre de l'anxiété, tu sais, du stress. Puis ça, je sais que c'est un red flag pour moi de genre, j'aime ma job, j'aime ma clientèle, j'aime travailler avec les gens, j'aime ça. Mais quand je suis rendu anxieux et stressé de ça, c'est juste que j'en ai trop sous mes épaules. Puis que c'est le temps de lever un peu le pied sur la pédale, tu sais, puis relaxer un peu. Puis je le sens ces temps-ci. Là, c'est. Puis les entrepreneurs, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui nous écoutent, mais tu sais, c'est jamais assez. Tu sais, moi, je veux me bâtir un fonds de prévoyance dans mon entreprise. Puis je veux dire, mon fonds de prévoyance, il est loin d'être où est-ce que je veux qu'il soit. Fait que pour moi, prendre une journée off de client, c'est comme. C'est impossible. Mais là, le bureau où est-ce que je suis, le gym est fermé durant la fête nationale. Fait que là, je suis comme obligé de prendre off. Mais au début, j'étais en crise. J'étais genre tabarnak. Puis là, après, j'ai fait, oh, peut-être j'en ai besoin. Et là, je compte les jours avant d'avoir 3 journées off collées. Je me rappelle pas, la dernière journée, j'ai pas trouvé travailler un samedi, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que je pense que ça va me faire du bien. Fait que, pour venir à la question, j'aime faire du vélo de route. J'adore faire ça. J'aime le badminton. Je sais pas si c'est un sport, mais j'aime vraiment jouer à ça. Mais j'ai pas de temps. La réalité, c'est que je m'entraîne parce que j'aime l'entraînement. J'aime ressentir les sensations de mon corps qui travaille. Mais l'aspect fun, sport, compétition, dépassement de soi, il est moins présent dans le gym. Je suis d'accord. C'est juste qu'en ce moment, tu sais, du vélo de route, il faut qu'il fasse beau. Il faut que j'aille le temps de partir pour une ride. Puis la réalité, c'est qu'en ce moment, je ne l'ai pas. C'est ça. Mais je fais de la marche. Je ne sais pas si c'est un sport. J'ai commencé ça. Marche le matin. Parce qu'avant, dans le fond, je déjeunais, puis je faisais mes trucs, puis tout ça. Mais là, maintenant, j'ai acheté un timer que je peux plugger ma machine à café sur mon timer. Fait qu'à 5h45, ma machine, c'est comme 25 minutes à réchauffer. Fait que là, ma machine, elle part. Fait que là, je peux me lever, mettons, faire mes trucs, prendre, mettons, ma médication, prendre un bon verre d'eau. Je me bois mon greens, Athletic Greens, pour faire une plug de bons suppléments. Puis après, je me claque mon café. Bing, à 6h, je peux aller faire 40 minutes de marche. Fait que qu'est-ce qui est cool de ça, c'est que ça me permet de frapper mon 10, 12 000 pas tous les jours, de faire des grosses marches comme ça. Tu prends l'air, c'est positif. Puis le matin, j'aime ça. Il n'y a pas un maudit chat. Je me fais pas déranger. Puis je suis un couche-tôt, mais c'est le fun de se lever tôt pour profiter un peu de la journée comme ça. Que penses-tu réellement des produits WeCook? Merci. OK. Je vais répondre à ta question, mais avant, je ne dis jamais rien sur les réseaux sociaux que je ne pense pas réellement. OK? Est-ce que vous avez déjà demandé pourquoi? Bon, j'ai pas tant d'abonnés que ça sur Instagram. J'en ai une couple, mais je fais pas tant de collaborations que ça parce que je collabore juste avec des affaires que j'aime vraiment pour de vrai puis que j'utilise pour vrai. Puis c'est vraiment important pour moi. Je vais pousser mes business, je vais pousser mes maillots de bain parce que, à mon sens, c'est les meilleurs maillots qui n'existent pas sur la planète Terre. Puis je vais pousser mes services d'entraînement parce qu'à mon sens, on a une des meilleures offres de services au Québec. Fait que c'est parce que je suis fier, puis je le sais, puis je bullshit pas, tu sais. Fait que quand je pousse une autre compagnie, ben il faut que je l'aime, cette compagnie-là. Tu sais, là, récemment, là, je connais beaucoup Cynthia Benoît, la propriétaire de la compagnie ADN. C'est des brownies protéinés. C'est fucking bon. Tu sais, pour vrai, je suis addict à ça. Puis en diète, surtout, ça a 150 calories, puis ça remplit à cause que c'est de la patate douce. C'est... Pour vrai, c'est malade mental. Fait que j'ai appelé, je disais, hey Sin, je peux-tu avoir un code promo? Je sais que ça fait influenceur 2015, mais ils sont chers. C'est ces produits, c'est vraiment bon. C'est pas donné. Fait qu'elle dit, ben ouais, je vais te faire un code promo, genre Félix 10, on va avoir 10%. C'est presque toutes les taxes. Je dis, OK, ça fait du sens, tu sais. Puis là, je l'ai partagé au monde. Là, hey, produit ADN, 10%, Félix 10. Pas parce que je suis comme, oh, je vais arrondir mes fins de mois avec ça. Non, juste parce que c'est un produit qui est juste malade. Puis si j'avais eu à partir une collation de protéines, ben ça aurait été ça. Fait que c'est ça. Fait que pour venir à ta question, oui, WeCook, les repas sont bons. Puis c'est toi qui, si tu veux manger, puis les calories sont écrites. Fait que tu veux du 700-800 cal, t'as des repas. Tu veux du 400-500 cal, t'as des repas. Tout est préparé. Fait que c'est pas de casser la tête. Tu peux le faire. Là. Moi, j'en commande dans des grosses périodes de rush souvent. Là, ces temps-ci, je suis beaucoup Costco, Costco, Costco parce que, je veux dire, j'aime le Costco puis on dirait que c'est comme ma sortie de la semaine. Mais ouais, ça fait vraiment du sens. Même que je suis en train, là, on va tourner sûrement des vidéos pour eux là, dans les prochaines semaines. Fait que, yeah. Suppléments, oui, non. Lesquels et pourquoi? Eh boy. Écoute, je te dirais, ça dépend. Ça dépend pourquoi tu utilises un supplément. T'sais, moi, souvent, si mon client arrive puis il y a des prises de sang, c'est beaucoup plus facile. Il y a une carence en B6, en B12, bing, c'est facile. Tu peux donner une bonne multivitamine. Carence en vitamine D, bing, multivitamine. Vitamine D. Tu sais, moi, là, un de mes gros problèmes, là, c'est la gestion de ma glycémie. Tu sais, je suis actif, mais pour vraiment avoir une incroyable gestion de glycémie, tu sais, moi, j'ai tendance à retenir du gras plus au niveau du haut du dos, un peu du bas du dos. Beaucoup d'hommes, on est plus des profils androïdes que gynoïdes. Mais moi, je sais que c'est comme ma sensibilité à l'insuline, tu sais. Fait que j'ai beau être en déficit calorique à manger des carbs, je vais être trip, là. Je vais avoir une roadmap de veines ses jambes, je vais avoir des veines ses épaules, ses bras, partout, ses mollets. Mais mon bas du dos, puis mon haut du dos sera pas veiné. Je vais avoir un peu de gras à ce niveau-là. Puis je sais que si je fais des gros déficits caloriques, à long terme, je vais commencer à gratter dans ma masse musculaire parce que ma glycémie, mettons, je fais un test de H1ABC, c'est pas optimal. Fait que qu'est-ce que j'utilise? Ben j'utilise la quercétine puis de la berbérine. Puis prise de sang wise, puis glycémie. Mettons, je teste ma glycémie avant puis après un repas avec ou sans, mettons, berbérine, quercétine, peu importe. Je vais voir une différence. Fait que je vais utiliser de la supplémentation vraiment spécifique en fonction de mon cas en particulier. À même titre que mes clients, la même Christine d'affaires, je donne pas 50 suppléments. J'ai toujours la règle de 3. Maximum 3 trucs que tu prends. Puis ça reste là. T'sais. Si vous allez voir quelqu'un qui dit « Ah, toi, t'as besoin de ci, puis de tout ça », comme pose-toi des questions. Faut vraiment que ça soit spécifique. Prise de sang de baisse. Sinon, faut vraiment qu'il y ait eu de l'expérience à avoir des clients, puis voir des patterns qui se répètent pour essayer d'adresser. Mais encore là, c'est « shoot in the blank ». Fait que je pourrais pas te donner malheureusement un supplément en particulier à prendre. C'est sûr que d'après moi, tout le monde devrait avoir une bonne multi. Moi, je le prends sous forme de greens, là. Ça fait du sens. Si tu manges pas de poisson gras, un oméga 3, c'est important. De la vitamine D l'hiver, pas mal ça. Comment le sommeil influence la perte de poids? New mom qui dort 2-3 heures depuis 9 mois. Aïe, aïe, aïe. Mais premièrement, je compatis avec toi. Deuxièmement, ça l'affecte parce que plus longtemps que tu es debout, bien, plus longtemps que tu peux avoir faim. La deuxième des choses, c'est que ton hormone de croissance, elle est pulsée durant la nuit. Et il y a des études très, très, très sérieuses qui linkent le manque de sommeil à la résistance à l'insuline et à une plénitude d'autres problèmes. Mais je pense qu'en perte de gras, le plus important, c'est le fait que si tu ne dors pas beaucoup, ben, tu es plus amorphe dans le jour. Étant plus amorphe dans le jour, tu brûles moins de calories. Fait que je te dirais que ça serait plus relié à ça. Notre corps peut-il être fatigué d'être en diète? Absolument. C'est une excellente question, mais oui. C'est pour ça que quand je coach quelqu'un, j'essaie de faire des diet breaks, ce qu'on appelle, donc des breaks de diète à la personne. Plus que la personne a un taux de gras qui est bas, plus qu'il faut que la personne le fasse souvent. Quelqu'un qui a 100 livres à perdre, là, c'est pas vrai qu'après 3 mois, ça peut être sain pour sa santé mentale, un break de diète, mais son corps, là, il est comme yo man, il me reste encore 70 livres que je porte sur mon corps comme I want to flush it and flush it now. Fait que c'est pas grave, mais quand t'es assez lean, of course, parce que si oui, ça va avoir un effet sur ton non-exercise activity thermogenesis. Les gens, inévitablement, sans s'en rendre compte, sont plus amorphes, bougent moins, sont plus fatigués, sont moins dynamiques. Fait qu'il faut que tu fasses des breaks de diète. Okay? Est-ce qu'un break égale que, mettons, tu étais à 2000 calories pour perdre du gras, ta maintenance est à 2500? Est-ce que tu étais, mettons, à 2000 calories, puis là, dans ton break, tu montes à 5000? Ben non, tu montes à 2500, 2600. Tu reviens à ta maintenance pendant 4, 6, 8 semaines, puis après, tu fais une deuxième phase jusqu'à ce que tu arrives à ton objectif. Quand tu es à ton objectif, tu remontes. Moi, le live, je suis dans mon processus de perte de gras. Puis là, depuis 3-4 jours, je commence à creuser un peu partout sur mon corps. Je m'entraînais. Je voyais des nouvelles veines que j'avais pas à des endroits genre que j'avais pas. J'avais des veines sur des side chest, genre ça fait le même. Mais ça va encore. Mais je le sais que dans 2 semaines, je vais être fatigué. Je vais être fatigué, je vais manquer d'énergie. Là, mes yeux commencent à être un peu plus cernés. Je le vois, là. Fait que t'sais, je vais faire une pause à un moment donné de peut-être 2 semaines, je vais recommencer. Puis quand je vais avoir atteint mon objectif, quand je vais avoir perdu toute la graisse que j'ai pris durant l'hiver, puis le déménagement, puis tout ça, ben je vais faire un maintien. Mon maintien, c'est quoi? Je vais monter légèrement mes calories dans ma semaine, fait que, mais je vais rester en déficit, sauf que 2 fois par semaine, ben je vais me permettre de manger ce que je veux, n'importe quoi. 2 à 3 fois par semaine en repas. Fait que, t'sais, une journée, je mange n'importe quoi. Ben un gros repas que je booste mes calories, après les 3 autres jours d'après, je le perds. Une autre fois, les 3 autres jours, tu sais, c'est correct de faire des écarts 2 fois, 3 fois par semaine, mais ce qui fait que c'est que tu vas te maintenir à faire ça. Mais il faut que les autres journées soient belles, tu sais. Fait que c'est un peu la stratégie, mais oui, c'est bon de faire des breaks à ta diète pour renormaliser un peu toutes tes hormones aussi, parce que c'est sûr que quand tu es en diète, tu vas souvent être carencé de plein de micronutriments. Puis ça se peut aussi que ça a un effet sur certaines fonctions, comme tes fonctions thyroïdiennes. Combien de sel tu consommes au quotidien? J'en ai aucune idée, mais quand vous êtes quelqu'un qui s'entraîne puis qui mange santé, vous devez consommer du sel. Ton dessert que tu te fais toi-même, boy, mon dessert que je me fais moi-même, j'ai pas vraiment de dessert que je me fais moi-même. Ah, je me fais des crêpes protéinées, super facile. Ratio 1 pour 1, protéines iso avec de la farine sans gluten, un peu de poudre à pâte, 2 œufs, qu'est-ce que je mets d'autre? Puis du lait d'amande pour tout dépendant de la texture que je veux. Puis ça te fait quand même, ça t'en fait pour au moins 2 personnes. Fait que c'est ça. Fais-tu des programmes pour femmes enceintes? Bien sûr. Profiter d'un repas plus un dessert une fois semaine en perte de gras, c'est réaliste sans tout couper. Ben oui, c'est réaliste, c'est absolument réaliste. T'sais, dites-vous qu'une livre de gras, c'est 3500 calories. Fait que mettons là, qu'une journée, là, tu manges un repas de 1000 calories de plus que ta maintenance. Mais t'as même pas pris 250 grammes de gras, là, t'sais. 300 grammes de gras. Il n'y a rien là. Deux jours après, c'est fini. Il ne faut juste pas le faire comme trop souvent. Tu sais, c'est juste ça. Que prends-tu comme supplément en ce moment? En ce moment, je prends le matin, je prends un supplément qui s'appelle l'Aromatec. C'est un supplément d'ATP qui aide la meilleure répartition de la testostérone. J'ai tendance à faire un peu de DHT dans mes fuites de testostérone, du déhydrotestostérone. Malheureusement, comme mon père et mon grand-père, ce qui amène des effets secondaires comme la perte de cheveux, comme différentes choses. Je prends du finastéride pour venir inhiber ça, mais souvent, il y a un phénomène de compétition avec la testostérone, fait que ça dépend tout dépendant de vos ratios. Bref, je prends l'Aromatec qui va aider à avoir une meilleure gestion de mes hormones androgènes. Qu'est-ce que je prends d'autre? Je prends du glucocontrôle, quercétine et berbérine, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour normaliser mon taux de sucre sanguin. Qu'est-ce que je prends d'autre? Je prends ça. Je pense la petite pilule le matin. L'oméga 3, c'est rare. Juste une semaine que je mange pas de poisson, mais je mange quand même assez souvent du saumon. Je prends mon greens, Athletic Greens, avant de déjeuner à tous les matins. Et ça ressemble... Ah, puis je prends beaucoup de magnésium le soir. C'est bon pour plein de réactions biochimiques. Je le fais aussi, je le vois quand je prends des méga gros dosages de magnésium. Je le vois que je suis moins anxieux, je dors mieux. Puis mes selles sont plus régulières aussi. Voilà. Est-ce que avoir des cernes en dessous des yeux peut être lié à une carence? Ben, j'ai déjà lu ça là, dans des blogs psychopop. Je pense que c'est plus relié au collagène que tu synthétises puis à la vieillesse, mais je pourrais pas dire. Est-ce que c'est correct de faire du dommage musculaire en fin de cut? Ouais, c'est correct. Il n'y a pas de problème avec ça. Ben, à moins que tu sois rendu à genre 4% de gras. Là, c'est peut-être là, ta récupération va peut-être être altéré, fait que ça sera peut-être pas l'idéal, mais je m'adresse à peut-être 1% de mes auditeurs. Là. Est-ce que ça se peut que je ne développe jamais d'abdos, même si je m'entraîne 4 fois par semaine? Ben en fait, les abdos, c'est un muscle que tout le monde a. Il n'y a pas un modèle, je ne sais pas si vous croyez en Dieu, mais, ou je sais pas, à Darwin ou whatever qui est, mais la personne ou l'être qui nous a créé, ben il nous a tous mis des abdos, ok? C'est juste que des fois, tu as trop de gras pour les voir, ok? On a tout un biceps, on a tout un triceps, on a tout un épaule, ok? C'est juste que peut-être qu'il est sous-développé ou qu'il y a trop, il y a trop un gros layout de gras par-dessus. Imagine, là, un beau gros steak, là. Imagine que tu es un faux filet, puis tu veux être un haut sur longe. Tu veux enlever le plus gros layout de gras autour pour mieux voir ton muscle. Quoi faire pour quelqu'un qui transpire beaucoup, même sans entraînement? Ah, mon Dieu, c'est une bonne... Je pourrais pas te dire. Moi, je sais que j'ai des clients qui ont été en acupuncture, puis ça les a aidés. Puis c'est ça. Hey boy. Le manscaping. Des fois, il y a du monde qui m'envoie des affaires, là. Le manscaping, ben le fait de se raser à la poche, ben ouais, écoute, je pense que c'est important d'avoir une hygiène. Puis, genre, comment je peux spinner ça comme intelligemment comme réponse? Parce que je lis pas les questions, hein, je lis en même temps que vous autres. Ben, moi, je suis quelqu'un qui. Je trouve ça important de me raser. Qu'est-ce que vous voulez? Le corps, un peu partout. Je trouve ça le fun. C'est plus esthétique. Puis, garde, j'aime ça de même. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là. Comment trouver la motivation de commencer? J'y arrive pas. Chaque matin, en me levant, je me dis ici. Écoute, ben faut que tu trouves ton why. Pourquoi tu sais pas? Pourquoi tu te lances une nouvelle entreprise? Ben, c'est peut-être parce que tu veux subvenir aux besoins financiers de ta famille. Pourquoi tu commences à t'entraîner? Ben, c'est peut-être que tu as une nouvelle job physique et ça te demande d'être plus fort. Ou c'est peut-être parce que tu as commencé à faire un nouveau sport puis il faut que tu performes plus. C'est peut-être parce que tu es écœuré dans ta tête l'apparence que tu as versus ce que si tu vois dans le miroir, c'est pas la même affaire. J'allais faire une blague. J'ai dit commence par manger tous tes repas tout nu devant le miroir puis ça va t'aider. C'est une joke. OK, c'est une farce. Faites pas ça. Vous allez développer des troubles de l'image, ne faites pas ça. Mais il faut juste que tu trouves le why, pourquoi tu le fais, est-ce que tu le fais... Mais il faut que tu le fasses pour toi, avant tout. Moi, je pense que tu pourrais le faire pour la... Tu sais, pourquoi je m'entraînais à 20 ans, c'est pas pourquoi je m'entraîne à 35 ans. Tu sais, maintenant, je m'entraîne... Avant, je me suis fait une grosse hernie discale l'été passé, là, genre, je me suis pété, là, mais comme faut, puis je l'ai traîné pendant genre 7 mois, là, tu sais. Puis j'ai juste réalisé, j'ai fait, mais pourquoi? Pourquoi, Félix, tu deadliftais 600 livres? Tu sais, bon, là, il y a des gars qui vont m'écrire, moi, je deadlift 800. Ben, tant mieux pour toi, c'est cool. Mais pour moi, 800 livres, c'était lourd en tabarouette. Tu sais, à un moment donné, du gros deadlift, du gros squat pesant, du gros, genre, mais pourquoi? Tu sais, j'avais pas une plus belle shape, puis je me préparais pas pour des, tests physiques de NFL ou whatever quoi. Tu sais, fait que j'ai juste réalisé, en vieillissant, un moment, tu frappes un mur, puis tu dis, pourquoi je le fais? Puis moi, je le fais pour être bien dans ma peau, pour être capable de courir 5 km, puis pas être tout pété pendant une semaine. Je le fais pour être capable de prendre des marches avec mon chien puis que tout aille bien. Je le fais pour me regarder dans le miroir, aimer ce que je vois, vieillir en santé, pas créer des nouveaux adipocytes que je pourrais pas perdre. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est ça. C'est ça. Voilà. Alimentation pour powerlifting. C'est pas ma force le powerlifting, mais je te dirais que c'est la même alimentation que pour n'importe quoi d'autre. C'est des sports avec à haute intensité avec un court laps de temps. Je pourrais plus y aller sous forme de supplémentation, mais l'alimentation reste l'alimentation de n'importe qui. Si tu me disais alimentation pour un gars qui fait le Tour de France, on pourrait avoir une discussion. Mais là, du powerlifting, t'as pas une dette énergétique qui est comme supra-maximale, tu sais. Oui, en perte de gras contre-productif. Non, prendre des protéines liquides en perte de poids, ça fait la job. Même moi, j'en prends des fois des shakes liquides. Parce que, tu sais, mettons, un scoop de protéines, c'est environ 115 calories. Fait que tu mets ça avec un, mettons, 500 ml de lait d'amande. Tu sais, puis mettons, je sais pas, une coupe de fraises, tu vas t'en sortir à 150 calories pour quelque chose qui va quand même te soutenir longtemps. Fait qu'il y a un bénéfice. Le seul côté négatif, c'est que c'est liquide, donc la digestion est beaucoup plus rapide. Fait que c'est comme une arme à double tranchant. Je préfère les calories solides si tu y as accès. Dans une période de perte de gras, de par le côté thermogénique de la chose, mais si tu es dans merde, puis tu es en auto, puis tu n'as pas le choix, ben vas-y comme ça. À quelle fréquence devons-nous changer de programme pour quelqu'un d'intermédiaire? Ça dépend. Moi, j'aime changer mes trainings. Ça dépend. Si c'est un training sur 5 jours différents, 6 semaines, ça fait du sens. Un training sur 3 jours différents, 4 semaines, ça fait du sens. Ça dépend vraiment. Puis, tu sais, tu peux changer. Moi, j'ai deux types de clientèle. Okay? J'ai les clients qu'il faut que je leur change leur workout, genre totalement différent, pour qu'ils soient comme, surtout des neurotypes, des 2A, 2B. Il faut que tu changes le workout au grand complet à toutes les fois pour qu'ils soient comme heureux puis qu'ils aient l'impression comme qu'ils... qui paye puis qui progresse pour quelque chose. Mais la réalité, là, c'est que tu peux faire des petits changements, des types, mettons, tu fais des changements au niveau des reps, tu fais des changements au niveau des tempos, tu fais changements au niveau des angles. Mais tu sais, tes lifts les plus payants, tu devrais toujours les garder, là, tu sais. Ça dépend. Que penses-tu du CrossFit pour la recomposition corporelle étant donné que c'est du volume plus d'intensité? Le CrossFit, OK. Puis, tu sais, je sais que mon opinion va être controversée, mais du CrossFit, c'est un sport, OK? C'est de la gymnastique, puis du powerlifting, puis peut-être une petite slice de bodybuilding ensemble. C'est un sport. Est-ce que tu peux faire un sport pour te mettre en forme? Ben oui, tu peux faire un sport pour te mettre en forme. Est-ce que c'est de la mise en forme? Non, je pense pas que c'est de la mise en forme, tu sais. Puis oui, ça combine du volume puis de l'intensité. Fait que si la programmation est mal faite, le risque de blessure, il est vraiment haut, là. Fait qu'à moins que tu sois génétiquement gifted puis whatever la raison, est-ce que c'est quelque chose que je recommande? Mettons, là, Jean-Sébastien, 36 ans, fait 4 ans qu'il s'est pas entraîné, il est à 28% de gras, il fume la top, puis il boit un peu trop de bière avec ses chums. Il vient me voir, là, un samedi matin, 9h à mon bureau, puis il me dit « Félix, qu'est-ce que je devrais faire comme entraînement? » Penses-tu que je vais lui dire « va t'inscrire au CrossFit? » Ben non, je ne vais pas lui dire ça. Je vais lui dire « OK, on va faire des tests physiques, je vais checker tes forces, tes faiblesses musculaires, on va recorriger tout ça, on va commencer avec un programme avec un risque de blessure minime, genre en gym, dans un environnement qui est contrôlé, avec des mouvements qui sont contrôlés, on va partir de là, puis on va ramper ça. Puis peut-être dans 6-8 mois, OK, CrossFit, une fois que ta mobilité va être bonne, là, on va avoir renforcé les tendons sur ton corps. Tu sais, il y a des étapes là, avant de se garracher dans la gueule du loup, tu sais. Fait que, voilà. Quoi regarder lors de prise de sang? Ça dépend. Ça dépend pourquoi tu fais tes prises de sang. Tu sais, bilan sanguin complet, bilan hormonal, c'est quelque chose qui est intéressant. Après, c'est que tu adresses. Tu sais, si tu es une femme, avec des règles abondantes, des fluctuations de ton énergie, ben, je regarderai mon taux de fer. Si tu es un Inuit ou si c'est quelqu'un qui travaille dans le Grand Nord ou whatever, ben, je checkerai peut-être ma vitamine D. Ça dépend. Ta journée idéale ressemble à quoi? C'est une excellente question. Ma journée idéale, elle est en vacances. Ma journée idéale, elle n'est pas ici, elle est ailleurs. Ça fait longtemps que je n'ai pas voyagé. J'ai pas de journée idéale. Ouais, c'est une bonne question. Je pense qu'une une bonne journée pour moi, c'est une journée dans la plénitude, quiétude. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais j'ai pas vraiment de journée idéale. Je pense juste de faire des trucs que j'aime puis prendre ça relax. Je suis pas un grand. Là, récemment, c'était la F1. Là. Puis là, j'ai l'impression que tous les influenceurs ou tous les gens du Québec étaient comme dans les paddocks là, de ça, là, avec des bouteilles. Puis moi, je relaxais chez nous, puis j'étais au spa, puis j'étais comme, je suis bien. Tu sais, je pense que ça dépend de chaque personne. Mais moi, j'aime beaucoup plus être dans le calme et la détente qu'être dans l'action puis l'effervescence de foule. Tu sais, don't get me wrong, j'aime ça, faire des activités avec des amis, aller dans un resto, faire des... Mais je sais pas si c'est parce que ça fait 17 ans que je suis dans des gyms avec du bruit, avec du monde, dans l'action, parler fort, puis ci, puis ça, mais j'enjoy des moments de plein silence et de vraiment de calme complet. J'adore ça. Fait que possiblement qu'il y aurait ça. Ta destination de rêve, je sais pas. Bora Bora, ça fait vraiment quétaine, mais j'arrête pas de voir ça sur Instagram parce que sûrement parce que je regarde ça. Fait qu'il m'envoie ça, mais un genre de petit paradis comme ça. J'étais allé à Hawaii deux fois à coup de vraiment, vraiment beaucoup de temps. À chaque fois, j'y allais. Non, la deuxième fois, j'allais trois semaines. Ouais, première fois, un peu plus. Anyways. Puis j'avais vraiment aimé ça. Mais j'aimerais ça aller dans un autre type de place, genre pacifique, paradisiaque. Fait que si vous voulez me payer un voyage, yes. Pression de toujours en faire plus, impression de jamais en faire assez, advice. Ben, j'ai sensiblement les mêmes enjeux. Souvent, c'est des enjeux de vouloir tout le temps être meilleur, des enjeux de performance. Je pense que la meilleure chose, c'est de consulter. Puis de trouver les règles, les besoins sous-jacents à ce besoin de dépassement de soi-là, puis c'est de creuser plus à ce niveau-là. T'sais. Une heure de muscu plus une heure de cardio, contre-productif ou pas? C'est pas contre-productif, mais c'est deux heures d'activité physique one-shot, c'est quand même demandant sur ton système. Ça se fait, mais c'est ça. Faut juste que tu accordes ton alimentation, puis le stress physique, puis mental que tu mets sur ton corps le reste de la journée. Parce que, tu sais, si on était des hommes des cavernes, je te dirais, on devait faire ça comme 3-4 fois par jour, mais on n'avait pas de stress. Notre stress, c'était comme de se mettre en dessous d'une caverne quand il y avait trop de soleil pour ne pas brûler, pas se faire manger par une bébite, pas se faire attaquer par un autre membre d'une autre tribu, puis quand il pleut, avoir un abri au-dessus de notre tête. Tu sais, c'était ça nos stress. Là. On s'entend qu'on est loin de genre payer tes factures d'hydro, puis pas avoir un compte en retard, puis ah shit, je me suis fait livrer de quoi par FedEx, mais là, j'ai pas reçu la note de paiement, puis le FedEx m'envoie un recouvrement pour 21$, puis tu sais, on n'est pas là, là. Ou me faire rentrer dedans par une fille, une adolescente sur mon char de luxe, que c'était mon symbole de réussite, là, je dis, là, puis là, me rouler en minoune. Tu sais, je veux dire, on a beaucoup de... Tu sais, on a des stress externes qui sont vraiment difficiles en ce moment, puis c'est des nouveaux stress, on dirait, de la vie moderne. Mais tu sais, don't get me wrong, là, on a la vie la plus chill qu'on a jamais eue. On dort dans des beaux lits, on mange de la bonne bouffe. Tu sais, nos arrière-grands-parents travaillent dans des mines. C'est décollissant, là. Tu sais, on est vraiment mieux qu'eux autres y étaient, mais le stress qu'on ressent, il est quand même là. Tu sais, souvent, il y a des gens qui disent « Ouais, mais eux autres, c'était vraiment plus difficile. » Ou sinon, j'envie le monde dans le temps, puis... Attendez une seconde, là. Chaque époque a ses enjeux. Puis je pense que ça serait pas pertinent de dire qu'on n'a pas de stress aujourd'hui parce qu'on est plus douillet qu'avant. Je pense qu'on a nous-mêmes nos stress. Et beaucoup de monde disait la pandémie, le monde ne sort pas. Ah, oh, tabarouette, pendant la guerre, il y avait ci, puis il y avait ça. Ouais, je suis d'accord, ça, c'est une autre époque. T'sais. Le mal-être que tu ressentais dans la pandémie, l'intensité que tu ressentais devait être la même intensité que les gens dans le temps ressentaient. T'sais, c'est la même chose que quand quelqu'un vit de la peine ou a de la colère par rapport à une situation que pour vous, c'est banal. Le sentiment est le même. Quelqu'un qui a de la peine, là, même si pour vous, il ne devra pas avoir de la peine pour ça, ben, ça vous appartient. Mais la peine qu'il ressent va être aussi grande pour lui que pour vous, quelque chose d'autre qui va vous faire de la peine. Chaque personne a ses triggers de qu'est-ce qui leur fait de la peine. Chaque personne a ses triggers de ce qui les met en colère. Puis je trouve pas ça correct de juger l'émotion de quelqu'un d'autre parce que l'émotion, elle est réelle puis elle est ressentie pour de vrai. Il n'y a rien de plus invalidant que quelqu'un qui dit « Ah, mais là, c'est juste des finances » ou « là, c'est juste... » Non, excuse-moi du terme, puis j'aime pas ça... J'aime pas ça sacré puis être vulgaire, mais ta gueule, tu sais, dans le sens que tu sais pas l'intensité que la personne vit son émotion, c'est prendre la même intensité que toi, tu vas vivre ton émotion dans un autre contexte. L'émotion, elle est universelle. Le bonheur, ce qui te rend heureux, puis l'autre, ce qui rend heureux, ça y appartient à un ou l'autre, mais l'intensité de l'émotion qui est vécue est la même. Fait que personne est à la place de personne, fait que personne peut invalider le sentiment de quelqu'un. All right? C'était mon two cents. Et voilà pour les questions. Tabarouette, ça a fini d'être mon affaire. Et voilà pour les questions d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a inspiré. Et si c'est le cas, ne vous gênez point de partager en grand nombre sur vos réseaux sociaux. Et ça va me faire un grand plaisir de vous dire merci. Et merci à vous tous et toutes de faire partie de ma podcast journey. C'était Félix Daigle à Montréal.